France Musique. Les grands entretiens, Lionel Esparza, France Musique.
Je suis William Christie, je suis né le 19 décembre 1944 dans la ville de Buffalo et je suis chef d'orchestre.
D'Atis, William Christie, se passe beaucoup de choses. Entre autres, dans les années 90, on fait ça de manière très très résumée, disons, mais cette idée que les arts florissants finalement trouvent une sorte d'audience d'abord nationale, ensuite internationale, on a l'impression que ça va très très vite au Châtelet, par exemple, et puis bientôt à Glyndebourne, quelques temps après, comme si finalement, en quelques années, il y avait une sorte d'effet domino qui fait que non seulement se développe une sorte de baroque au niveau international, et que ça, vous le portez, vous l'accompagnez, enfin, vous êtes au mouvement même, en quelque sorte.
Mais il y a deux façons de répondre à cela. C'est incontestable maintenant, enfin, que ce répertoire qui était un répertoire d'options, enfin, pour certaines salles, certaines gens, est devenu un répertoire incontournable. On ne peut pas imaginer un opéra aujourd'hui, enfin, qui a un petit peu de fierté, qui ne pense pas et qui ne programme pas Monteverdi ou Handel ou même maintenant Rameau. Alors, il y a aussi le phénomène d'une griffe. C'est-à-dire que les arts florissants se trouvaient subitement, mais invités un petit peu partout dans le monde. Et je crois, non seulement parce que nous sommes sérieux et puis on aime faire la musique en public, mais parce qu'on avait une façon, enfin, de s'exprimer. C'est comme une marque faite de vêtements. Moi, je porte Prada. Oui. Je fume, enfin, que des Danil, enfin, n'est-ce pas? Il y a un son à florissant. Et je suis très fier de cela. Évidemment, ce son change d'une façon imperceptible, puisqu'en effet, les équipes changent. Mais ça veut dire aussi fait que quand quelqu'un arrive, en ce moment, je travaille avec des très très jeunes, non seulement des Français, mais de la Juilliard School. Tout bon musicien veut plaire à celui fait qui arrive pour les diriger. Ça, c'est un maxime important. Et que fait-il, monsieur le violon, enfin, n'est-ce pas, américain, enfin, qui veut avoir quelques bons mots, enfin, de monsieur Christie? Soit, enfin, qu'il est vraiment, c'est un superstar, et puis, ou il essaie, effectivement, d'inclure, enfin, des choses, enfin, qui font partie, enfin, de mon monde, de le directeur. Ça, c'est important aussi.
Justement les stars. Dans les années 90, avec l'internationalisation des arts florissants, vous trouvez vraiment à commencer à travailler avec de grandes stars internationales du chant, c'est-à-dire plus les chanteurs ou chanteuses que vous avez formés vous-même au conservatoire ou ailleurs, mais des gens qui viennent d'autres traditions et qui font de la musique ancienne aussi, qui ont pu en faire. Comment se passe le contact avec les Bartoli, les Nathalie Dessay avec lesquels vous êtes amenés à travailler?
Je crois que ça, c'est parmi les très heureux résultats de notre camp, de notre milieu. Il y a toujours, n'est-ce pas, les chanteurs intelligents qui s'adaptent et les chanteurs stupides qui ne s'adaptent pas, mais qui peuvent avoir des merveilles. Hein? On peut être, autrement dit, un peu bébête et avoir une voix sublime. et convaincre avec passion et avec conviction, n'est-ce pas, son auditoire. Les deux, par exemple, que vous avez mentionnés, Nathalie Dessay et Cecilia Bartoli, sont non seulement les belles voix et les suprêmes artistes, mais elles possèdent aussi une finesse, une intelligence et une culture. Alors, j'avais, pour répondre plus à votre question, il y a, en effet, depuis une vingtaine, trentaine d'années, ces chanteurs qui, par leur intelligence et par leur personnalité, qui peuvent être absolument parfaits dans un contexte de musique ancienne. Parfait. Lorraine Hunt chantait beaucoup de choses. Stephanie Dustak, fille intelligente et fine, voilà. Ils sont nombreux ? Non. Mais il y a davantage peut-être de savoir-faire, de finesse aujourd'hui qu'il y avait certainement il y a 30 ou 40 ans. C'est évident. La vie est belle en ce moment. Mmh. Bon, la vie est toujours belle, mais il y avait des moments plus riches que d'autres. Jamais pauvres, jamais. Mais... ces jeunes générations. D'abord, c'est très simple. Le geste et la tâche devient plus facile s'il y a une tradition derrière. Si quelqu'un, peut-être avant toi, a résolu un nombre de problèmes liés avec un style. Voilà. Et c'est le cas maintenant. Nous, on a... On vivait des heures, n'est-ce pas, pour essayer de comprendre comment rendre une phrase de Rameau éloquente. Et maintenant, il y a des jeunes gens, c'est comme si c'était, je ne sais pas, une simplicité absolument évidente. C'est ça qui est merveilleux.
Vous avez parlé, William Christie, des metteurs en scène un peu Jean-Marie Pilégié. Vous en avez cité quelques autres. Vous avez croisé à peu près tous les metteurs en scène qui comptent dans le domaine de l'opéra. Est-ce qu'il y en a un, deux, je ne sais pas, que vous auriez envie de mettre en exergue comme étant ceux avec lesquels il a été finalement le plus enrichissant, le plus créatif de travailler?
Non, ils sont plusieurs, en fait. Je ne suis pas un homme négatif, mais il faut éviter, n'est-ce pas, tout simplement, le metteur en scène qui n'aime pas la musique, ou qui ne connaît pas la musique. Et ça, c'est un phénomène qui, hélas, est plus répandu qu'on puisse imaginer. On prend quelqu'un, n'est-ce pas, qui a brillé dans le cinéma italien. On prend un conceptualiste visuel, ça, ce sont les moments où je me dis... Peut-être une conversation préalable, n'est-ce pas, avant de signer le contrat, ce serait une bonne chose. Hein. Les gens que j'aime, ce sont les gens avec qui je peux parler, effectivement, théâtre et acteur, mais les gens, surtout, qui peuvent me dire, j'entends une interprétation un tout petit peu moins tonitruante, peut-être moins d'instruments dans le continu. Est-ce que, ou, par exemple, moi, je peux dire à la personne que j'aime, attention, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés de coordination entre l'orchestre, entre la fosse et la voix. Surtout, ne mettez pas cette pauvre chanteuse, n'est-ce pas, à 50 mètres au fond de la scène. C'est pas possible. Autrement dit, les gens qui ont respect et connaissance de ce que moi je fais, c'est l'opéra. Ce n'est pas un moi, je. L'opéra, c'est un partage. Il y a le chanteur qui doit être à l'aise et respecté. Il y a l'orchestre et le chef qui doivent... Oui. Et les caprices, les sauts d'humeur d'un nombre de metteurs en scène sont tout simplement inexcusables. J'ai cette réputation d'être un tout petit peu exigeant et insistant sur ce partage. C'est pour ça que j'aime David McVicker, qui peut, comme Jean-Marie Vidéger, chantonner, siffler tous les airs et qui a une idée musicale de ce qu'on voit. Ça, c'est important. Parce qu'on voit la musique. Oui. C'est important, ça. Robert Carson, très interventionniste. Ah, c'est trop fort, ça. C'est trop vite. Tu peux pas quand même un tout petit peu... Ben, pourquoi est-ce que ça doit être si longueux? On peut pas avoir un peu plus de... Oui.
Il intervient dans la musique même.
Ben, évidemment. Oui. Comme moi, j'interviens aussi sur ce que je vois.
France Musique, les grands entretiens de William Christie.
Alors les grandes affaires de ces dernières années, c'est quand même le Jardin des Voix. Ce qui m'intéresse là-dedans, parce que ça fait 15 ans que vous avez lancé le Jardin des Voix, maintenant, si je compte bien, un peu plus même, c'est le rapport à l'enseignement que ça révèle. Parce que bien sûr, c'est un espace de professionnalisation ou de pré-professionnalisation pour de jeunes chanteurs. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le lieu en plus où vous organisez, en quelque sorte, à votre main, ce que serait, et on l'avait déjà vu avec le conservatoire, une sorte d'enseignement professionnalisant, mais d'enseignement tel que vous l'aimez. C'est-à-dire qu'il tient à la fois du partage, et puis quand on parlait de ce que c'est qu'un maître de musique, de ce que vous pouvez apporter aussi à ces jeunes chanteurs qui viennent vous voir.
C'est Jardin des Voix, c'est bien parce que le nom conservatoire doit figurer dans le Jardin des Voix. Moi, j'ai quitté l'enseignement au CNSM en 96. 96, tout simplement parce que je ne pouvais plus. Je ne pouvais pas assurer la régularité, n'est-ce pas, faire des classes. Ces problèmes liés avec les longs voyages, les tournées, c'était trop difficile. Mais au bout de quelques années, ça commençait vraiment à me manquer terriblement. Les auditions pour recruter du talent, c'est une chose, mais ce n'est pas du tout comme, n'est-ce pas, une formation avec une classe, n'est-ce pas? Et voilà. Et donc, en parlant avec mes collègues, on s'est dit, mais pourquoi pas, par exemple, quelque chose qui peut être moins exigeant sur le plan, d'emploi de temps, n'est-ce pas, et engagement. Pourquoi pas, par exemple, une sorte d'académie qui a eu tous les deux ans. C'était ça. Et donc, on recrute un peu partout dans le monde. Maintenant, depuis 15 ans, c'est 16 ans, 17 ans, c'est jamais plus que 7 ou 8, mais normalement, maintenant, il y a 6 chanteurs. Et on façonnait le programme autour d'eux. C'est-à-dire, c'était pas une question d'écouter une voix pour un rôle, dans une œuvre. Et ça, on a eu... Je crois que c'est la chance. C'est une question de planète aussi, n'est-ce pas? Enfin, je suis sûr. Mais on a eu des succès absolument inattendus. Non seulement parce que, bon, c'est-à-dire, l'idée c'est que, avec notre nom, on pouvait vendre ces inconnus dans les plus belles salles au monde. Mais ce que faisaient ces voix inconnues dans ces salles, c'était absolument éblouissant. Et ça continue.
William Christie, les spectacles, les ensembles, les groupes, les relations que vous avez pu avoir avec les artistes avec lesquels vous avez travaillé. De quoi vous êtes professionnellement aujourd'hui le plus fier?
Ce qui me rend le plus heureux, c'est que ce que nous essayons enfin, de transmettre, n'est-ce pas? Enfin, disons enfin, que le message que nous avons, musicalement parlant, semble, enfin, n'est-ce pas, avoir autant d'impact enfin, sur nos auditeurs enfin, que, oui, que c'est une chose constante. Que le rapport, la communication, la transmission semble, enfin, n'est-ce pas, bien maintenu. Et je dis, oui, ça c'est lié aussi avec cette nature enfin, à la fois permanente et très changeante aussi enfin, de l'ensemble. Nous avons maintenant les gens enfin, qui sont avec nous depuis 30 ans, 35 ans, et qui sont les véritables piliers. Mais ils sont à côté de quelqu'un, comme un Théotime Langlois de Svart, enfin, qui est là depuis 2 mois, ou 4 mois, ou un an. Donc, le message, la transmission, ça, c'est une immense fierté pour moi. Voilà. C'est-à-dire que nous connaissons tous les ensembles fait, qui sont absolument minables, fait, n'est-ce pas, en public. Ils brillent fait, dans un studio d'enregistrement, où ils peuvent soigner la chose, mais ce moment merveilleux de contact avec l'auditoire, le public, n'est-ce pas, n'est pas important. Ça, je n'ai pas ce genre de musicien.
Et pourtant, le rapport avec le concert est parfois compliqué chez vous, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas attentifs. J'ai assisté des fois à des moments où vous vivez la chose de manière
mais pourquoi pas,
enfin, très
dure. Si mon orchestre et mon chœur enfin, ne tousse pas avec qui un comportement exemplaire, pourquoi est-ce que j'accepte l'idée enfin, que quelqu'un consulte ses messages, envoie des SMS, ou laisse sonner enfin, ses portables, ou qui tousse comme les tuberculeux, enfin, tu vois. Voilà. La France est très bizarre pour ce genre de choses. Enfin, on a fait beaucoup de progrès, mais je me souviens, j'ai arrêté aux Champs-Élysées parce qu'il y avait, enfin, n'est-ce pas, des tousseurs invraisemblables. Mais le simple fait que, après ma petite crise de nerfs, personne toussait.
Enfin, de manière un peu personnelle, parce que c'est l'impression que j'ai parfois un peu de vous, que vous êtes un hypersensible d'une certaine manière, même si ce n'est pas la chose qui apparaît nécessairement. Est-ce que l'hypersensibilité fait partie de votre... Enfin, c'est votre manière d'être, finalement.
Qu'est-ce qui est caché derrière ce mot d'hypersensibilité?
Oh, ben, une grande sensibilité, simplement.
Ben oui. Je suis un homme sensible, hypersensible pour certaines choses, oui, certains.
Oui. C'est-à-dire que quand vous dirigez, vous êtes ému par certains moments, ou est-ce que le fait de devoir diriger, donc d'avoir cette fonction-là, cette charge-là, empêche l'émotion de passer?
Non, je crois que l'hypersensibilité peut être une bonne chose pour une interprétation. Est-ce que ça m'arrive, par exemple, de pleurer en jouant? Oui, absolument. Ou en écoutant quelqu'un enfin, qui me touche beaucoup, enfin, n'est-ce pas, qui est à côté de moi? Absolument. Passion dévorante, c'est la musique et puis et le jardin, voilà, la nature. Et ça, c'est une question peut-être de mon éducation, de mon enfance. Enfin, c'est les parents qui adoraient les jardins et qui jardinaient. Est-ce que ce serait possible que je vive ma vie sans ce contexte végétal? Je ne crois pas. Voilà. C'est-à-dire que quand je suis en tournée, quand je suis en train de faire la musique, très souvent, le manque, c'est ça. C'est... Dans ce cas-là, je parle avec mes plantes, enfin, je parle avec le jardinier, enfin, je demande comment, enfin, va, enfin, c'est comme un enfant malade où on n'a pas de nouvelles, enfin, n'est-ce pas, de mes rosiers zéphyrines de Rouen.
Mais vous leur parlez réellement aux plantes?
Ben évidemment. C'est comme, oui, absolument. Oui.
Mais elles ne répondent pas.
Ah, ben si, elles réagissent, les plantes, oui. Ben non, mais j'avais un if ici, en taupière, enfin, n'est-ce pas, j'ai soigné, c'est comme un enfant malade, comme quelqu'un qui avait un gros problème de santé. On a dépensé du temps et de l'argent pour que cet if, n'est-ce pas, soit heureux. L'if maintenant se trouve dans un grand container, exilé, fait dans un fin fond, fait de mon stockage, et voilà.
Et on entend des oiseaux derrière.
Oui.
Vous avez des oiseaux aussi ici?
Oui. Des inséparables. Oui. J'ai également fait quelques centaines de pigeons blancs pans. J'ai des cygnes. J'avais deux ânes. Deux ânesses, mais plus maintenant. J'ai des poules. J'ai des moutons. J'ai un grand troupeau ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des chats.
De la nature.
Oui. C'est bien de terminer sur le végétal.
Maïfou, à l'acte 1 de Circé de Georg Friedrich Händel, c'était Anne-Sophie von Otter avec William Christie et les arts florissants. Ainsi s'achèvent nos grands entretiens consacrés à William Christie. Merci à Flora Sternadel, Marie Groux, Yvan Charby, Valérie Lavalard, mais aussi Natacha Semenov et Clara Leonardi des arts flots. Et puis merci à William Christie qui nous a accueillis dans son fief de Tiré. Cette émission est à retrouver sur francemusique.fr dans son intégralité et dès lundi, de nouveaux grands entretiens à 22h30 sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.